Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon libre, c'est lundi, il est 14h, bientôt 14h01, vous êtes sur Cause Commune, 93.fm, vous pouvez nous écouter sur internet, sur la DAB+, salut à vous qui nous écoutez aussi en direct, vous êtes peut-être en train de cuisiner, de pédaler, de bricoler, faire semblant de travailler, vous nous écoutez en podcast, et ben salut à vous aussi. Cause Commune et Rayon libre s'écoutent où vous voulez, merci de votre fidélité, et à propos de fidélité, merci à Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission avec sa chronique, merci à Olivier Gréco, le patron de Cause Commune, et évidemment, merci à Cause Commune. Pour certains, le vélo, c'est un moyen de transport pour aller du point A au point B. Pour d'autres, le vélo est une machine pour aller du point A au point A. Pour tous les cyclistes, en tout cas ceux ou celles qui aiment pédaler, le vélo est une fabrique à souvenirs. Pour les mêmes, le vélo est une usine à rencontres, une distillerie à souffrance, une manufacture à sueur, une manufacture à douleur. Le vélo peut être une récompense, une dépense, une dépendance, une transhumance, une extravagance, une imprudence, une performance, une romance. Ce que nous essayons de faire avec cette émission Rayon libre, c'est ça, transformer ces coups de pédale donnés sans appétence en coups de pédale gourmands. Transformer celles ou ceux qui ne comprennent pas cet objet en cyclistes prêts à essayer. C'est aussi, je crois, ce que tentent de raconter mes invités du jour. Ils sont co-auteurs d'une bande dessinée qu'ils viennent de publier chez Dargaud, un album. Elle s'appelle La Ride, en un peu plus de 100 pages. Ils nous illustrent ou nous font un résumé de 500 km à vélo entre Paris et Saint-Ganjou, le national, je ne sais pas si je le dis bien, c'est à côté de Dijon, contre 18 euros, vous pourrez expérimenter le goût et la saveur du voyage à vélo. Si vous êtes cycliste averti, cyclotouriste aguerri, vous accepterez sans ciller les quelques clichés proposés dans cette BD. Vous vous laisserez embarquer par le style graphique, quelques magnifiques double pages, la page 70-71 notamment, ou encore la page 98-99, ou encore cette magnifique descente, page 74-75, sans parler des rencontres avec Corinne ou Christian. La Ride, c'est aussi une mise à l'épreuve. Les auteurs vont peut-être nous le confirmer, une mise à l'épreuve du corps, du cœur, du mental, et peut-être aussi une mise à l'épreuve de l'amitié. En tout cas, merci à vous deux, Simon Boileau et Florian Pierre, d'être présents avec nous en studio cet après-midi. Bonjour messieurs.
Bonjour et merci beaucoup de nous accueillir.
Eh ben, c'est un plaisir. Merci d'être avec nous aujourd'hui au studio. Vous n'êtes pas venu à vélo, mais en tout cas, j'aime bien votre choix de raconter votre périple par la bande dessinée. C'est un peu plus audacieux qu'un podcast. Ça nous change du blog. C'est une autre façon de raconter le vélo. Et ma première question est en écho à cette introduction. Quand on lit votre récit, est-ce que la ride, c'est quand même aussi une mise à l'épreuve de l'amitié ?
Alors, avant d'être une mise à l'épreuve de l'amitié, je dirais que c'est aussi...
Alors, juste pour les auditeurs et auditrices, qui est-ce qui parle,
Alors, ici, c'est Simon.
C'est Simon.
Scénariste.
Ouais, scénariste.
Et Florent, dessinateur.
D'accord. Alors, c'est Simon qui parle et qui nous dit, avant d'être une mise à l'épreuve de l'amitié...
C'est une histoire d'amitié.
Ouais.
Voilà. La mise à l'épreuve, elle vient au fil des kilomètres, je dirais. Et oui, comme toute histoire, comme tout voyage. Nous, pour nous, la ride et donc cette histoire d'amitié, elle remonte déjà à la rencontre en école d'art. On s'est rencontrés en école d'art. Et à partir de 2015, on a entrepris de partir en voyage. Donc au début, c'était vraiment sans même connaître la pratique. Disons qu'on a juste eu une espèce d'idée folle et on pensait qu'on avait inventé la roue, littéralement. on est parti de chez Florent, Saint-Jean-Goule National,
ouais.
Jusqu'à...
Qui est dans le 21, c'est ça, c'est dans le Côte d'Or?
Alors non, c'est en Saône-et-Loire.
En Saône-et-Loire. Alors rapproche-toi un peu du micro, par contre.
Ouais.
Et on est allé jusque dans mon village. Donc, quand je dis mon et son village, c'est celui où on a grandi, puisque ouais. Après, on est les chemins faisants, on s'est retrouvé à Paris, comme beaucoup de gens. Et donc, on a pris juste les vélos qu'on avait sous la main, c'est-à-dire moi, j'avais mon vieux VTT de quand j'avais 13 ans, j'avais le dos en deux, et on est parti à l'aventure avec une tente, et on a fait, voilà, c'était. Je dirais un peu moins de 300 km, pas mal de dénivelé quand même, puisque ouais. Moi j'habite à plus de 1000 mètres.
Vous parlez comme des experts là, ça y est, vous parlez de kilomètres, dénivelé.
Voilà, à l'époque c'était juste Google Maps en espérant qu'on ait suffisamment de batterie et on avançait comme on pouvait sur les itinéraires qu'on nous proposait.
Alors je vais poser la question autrement, quand je parle d'épreuve de l'amitié, est-ce que finalement aussi le vélo a renforcé votre amitié, le fait de faire du vélo ensemble? Comment vous êtes mis au vélo ensemble? Racontez-nous ça.
Ah, je peux peut-être enchaîner.
Ouais.
En fait... Notre amitié, elle est un peu décorrélée du vélo à la base. On s'est rencontrés pendant nos études et on avait déjà d'autres sujets en commun qu'on partageait, notamment la bande dessinée, la littérature. Et en fait, il se trouve qu'à Lyon, à l'époque, Simon m'a beaucoup traîné dans le sport. On a beaucoup couru ensemble et on a commencé à faire du vélo.
Et d'ailleurs, dans la BD, on voit qu'il y en a un qui souffre plus que l'autre. Hein. C'est Simon qui emmène Florent plus, c'est ça? C'est toi, c'est vous, Florent, qui souffrait un peu et qui maudissait ces villages déserts dans lesquels les boulangeries sont fermées?
Exactement. Moi, j'ai toujours accepté les défis que Simon me propose avec plaisir. Et voilà, pour moi, c'était souvent des challenges. Mais en ce sens, oui, ça renforce l'amitié parce que... ça m'a permis, moi, en ce qui me concerne, ça m'a tiré vers le haut, ça m'a montré des horizons que j'aurais peut-être pas découvert sans Simon. Ouais. Notamment du point de vue du sport, mais aussi du point de vue de l'aventure, de se mettre un peu en danger. Comme je suis dessinateur, on a un rapport au monde qui est beaucoup plus monacal, on va dire. Ouais. Donc, je sais pas si Simon t'as...
Parce que Simon, c'est vous qui dans la BD et qui aujourd'hui, enfin, on le voit en tout cas au début de la BD, c'est vous qui faites des livraisons à vélo?
Alors, les livraisons à vélo, on va peut-être en parler quand on parlera plus de la bande dessinée, mais il y a un espèce de miroir déformant dans le sens où c'est pas mon activité principale. J'ai par contre fait des livraisons à vélo au moment où on a commencé l'écriture des strips, puisqu'avant la bande dessinée, la Ride, c'était un compte Instagram où vraiment dans notre chambre, on a commencé à raconter nos histoires.
D'accord. Alors, on reviendra un peu après en deuxième partie de l'émission sur comment on passe de strip sur Instagram à une BD, parce que c'est aussi une autre aventure. Moi, j'ai envie de revenir quand même sur ce que on raconte ou ce qu'on voit dans votre album. Et je me pose la question, est-ce que vous avez des nouvelles de Christian à qui vous dites on ne vous oubliera jamais?
Malheureusement, non.
Non.
Comme on explique souvent, en fait, Christian, on l'a pas rencontré.
Alors peut-être qu'il faut expliquer qui c'est Christian. Qu'est-ce qui va expliquer qui est Christian?
Est-ce que tu
Parce
veux
que nos auditeurs et auditrices n'ont pas forcément lu votre livre, pas encore. Ils vont le lire après. Ils vont filer l'acheter à vélo une fois qu'ils auront écouté l'émission, j'imagine.
Dans le livre, donc, il y a un certain Christian qui nous accueille pour la nuit, qui est agriculteur.
Qui vous sauve la vie presque.
Qui nous sauve la vie. Et en fait, ce Christian. Il n'est pas à l'endroit où on le trouve dans le livre, mais par contre, on l'a bien rencontré, ce Christian. Il était bien plus à l'ouest, dans les Charentes-Maritimes. Et ça, oui, il nous a, si c'est pas littéralement sauvé la vie, en tout cas, on a passé un super moment et il nous a hébergés. Et en fait, on a un peu retranscrit toutes ces rencontres. Et Christian, on n'a pas eu de nouvelles. Par contre, on lui avait quand même envoyé une carte postale, mais sans mettre notre adresse, en disant merci pour tout.
Ah, c'est trop bien. Et est-ce que, par exemple, vous envisagez de lui envoyer un exemplaire de la Ride à Christian?
Il faudrait qu'on retrouve son adresse parce que ça remonte à des années.
Oui, justement, c'était quand est-ce que vous êtes parti comme ça? L'histoire de la Ride que vous racontez dans cette BD, elle date de quand? Quand est-ce que vous êtes parti faire ce périple?
Pour que ce soit un tout petit peu plus clair, en fait, tout ce qu'on raconte dans cette bande dessinée, alors cette route, on l'a vraiment roulée, c'est-à-dire de Paris jusqu'au village de Saint-Jean-Goul-National en Saône-et-Loire, on l'a roulée. C'était
en 2021.
Mais auparavant, on a eu, de 2015 donc à aujourd'hui, on a eu en moyenne un ou deux voyages par an.
D'accord. Donc en fait, cet album, c'est un condensé où c'est vous rassemblez tous vos différents souvenirs pour en faire... Il y a plusieurs rides dans une ride, en fait.
Exactement. Et d'accord. Du coup, la rencontre avec Christian, c'était lors d'un autre voyage, donc plus dans l'Ouest.
D'accord.
Voilà, donc du coup, ça remonte un peu pour le coup, cet épisode-là.
Et pareil, dans cet épisode, dans l'album, il y a une certaine Corinne qui apparaît, qui tient un routier. Est-ce que vous avez des nouvelles de Corinne? En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que vous racontez dans cet album, c'est notamment les rencontres qu'on retrouve beaucoup quand on interview ici des voyageurs à vélo, ils nous parlent tous de rencontres. Je trouve que votre rencontre avec Corinne, elle est fantastique aussi.
Alors, ça, c'est une histoire un peu marrante, mais je pense que, en fait, c'est l'un des gros atouts de la BD, c'est qu'on peut se permettre de recomposer des réalités. Parce qu'en fait, il nous arrive souvent, en fait, de rentrer dans des routiers, et c'est vraiment des moments qui nous marquent parce qu'on rencontre souvent des personnages comme ça avec qui on échange. Mais Corinne, il se trouve que c'est quelqu'un d'autre. C'est la maman d'un de nos meilleurs amis. Qui a toujours été la fan numéro 1 de tout ce qu'on fait en bande
dessinée. De vos aventures,
Et donc, du coup, on a fait une sorte de transfert comme ça, où d'un coup, elle devient un personnage.
Ouais.
Et voilà, enfin, du coup, j'espère qu'elle n'écoutera pas cette émission de radio dès maintenant parce que ça va lui gâcher la surprise. Mais voilà, en fait, on se permet comme ça de recréer, enfin de mélanger.
En fait, vous piochez des éléments des histoires qui vous sont vraiment arrivées, des rencontres que vous avez vraiment eues, puis vous les scénarisez un petit peu, parce que j'imagine aussi, malgré tout, cette Corinne dans votre BD, elle tient un routier, un relais routier. J'imagine que pendant vos périples, vous vous arrêtez aussi dans des relais routiers et c'est des lieux qui sont complètement inattendus et finalement qui sont extraordinaires.
Ouais, c'est ça. En fait, on a pris nos histoires et donc ce qu'on ressent quand on a traversé, on a fait, 40, 50 bornes le matin, on commence à avoir faim et ce que ça fait que d'un coup de rentrer dans un routier, déjà de se sentir pas forcément tout de suite à sa place parce que on n'est pas, vu la vie qu'on a en étant à Paris et même en général, c'est les routiers, c'est surtout pour les routiers, les artisans du coin. Ouais. Et nous, à part quand on est sur la route, on n'a pas l'occasion. Et ça fait partie, je trouve, de l'intérêt du voyage. Et c'est ce qu'on essaye de raconter un peu dans notre histoire, c'est que on est prisonnier un peu du présent et du ici et maintenant.
Ouais.
Et donc, quand on a faim et qu'on est sur la route, on n'ouvre pas Google Maps pour voir quel resto est le mieux noté à 20 bornes à la ronde. On va au routier du coin.
Oui, on va au
et c'est là que la magie opère parce que on va manger les œufs en meurette ou les poireaux vinaigrettes et on va les adorer en fait. On n'a pas besoin de plus.
Alors on va, c'est le moment, il est 14h11, vous êtes toujours sur Cause Commune, vous êtes toujours en train d'écouter Rayon Libre, nous sommes en compagnie de Simon et Florent qui ont écrit et scénarisé La Ride, qui est une BD qui est parue chez Dargo. Là, on va faire la petite pause agenda et puis la pause musicale. Et après, on va parler aussi quand même de pourquoi vous voyagez, qu'est-ce que vous êtes allé chercher. Et puis aussi quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette aventure, comment on passe d'un strip, de strip sur Instagram à une BD qui est éditée chez Dargo. Vos personnages, ils cohabitent avec Agrippine, par exemple. C'est quand même une belle collection, Dargo. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, comme je le dis, vous écoutez Rayon Libre. Nous sommes avec Simon Boileau et Florent Pierre, co-auteur de cette BD publiée par Dargo qui s'intitule La Ride, qui est en librairie depuis la semaine dernière. Et vous, auditeurs, auditrices, si vous nous écoutez parce que vous cherchez quoi faire, que voir, que lire cette semaine, et ben restez avec nous, c'est le moment de l'agenda de Rayon Libre. Alors roulez avec Delphine de Nevers à Nantes contre la maladie de Parkinson, une ride pour sensibiliser, évoquer, lutter contre la maladie de Parkinson dont Delphine est atteinte. Elle part de Nevers le 29 avril, direction Nantes le 4 mai. Pour la contacter, et ben une adresse mail parkinsonsport, un truc comme ça, @gmail.com. Le lien est sur la fiche de l'émission. Pardon, c'est parkinsport59@gmail.com. Vous avez une start-up ou un projet de start-up qui peut make mobility more sustainable and smarter, alors candidatez au programme European Startup Prize for Mobility, et pourquoi pas. Et si vous n'avez ni start-up ni projet de start-up, votre vie doit être bien ennuyeuse quand même. Alors engagez-vous sur la marine marchande. J'ai appris en lisant Le Parisien ce week-end que sur les Q-Max, qui sont les plus gros métaniers du monde, ils font plus de 340 mètres de long, et ben l'équipage, il se déplace sur le pont à vélo pour gagner du temps. Sauf certainement les jours de gros temps, mais ça c'est pas dit dans Le Parisien, c'était qu'une supposition de marin qui vous parle. Vous êtes sur Cause Commune, Rayon Libre, il est 14h13. Nous sommes lundi 24 avril en compagnie de Simon Boileau et Florent Pierre, co-auteurs de La Ride, publié chez Dargo. On les retrouve après ce morceau, un Crazy But My Baby, en une reprise proposée par The Cotton Kids, mais je crois qu'Olivier m'a pas mis la reprise, il m'a mis l'original, mais c'est bien aussi. On s'écoute ça, on se retrouve dans 3 minutes.
I'm crazy about my baby's crazy about me, here it is, babes. Your license number is 94136.
Cause Commune à Paris, 93.1 en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
Walking on air. license number is 94136.
Et nous voilà de retour, la deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune, 93.1 FM. Il est 14h17 avec Simon Boileau et Florent Pierre, qui viennent de publier une BD aux éditions d'Argol. Cette BD, elle s'appelle La Ride. On vient de s'écouter un morceau des Cotton Skids, même si je suis pas sûr que ce soit les Cotton Skids. Simon et Florent, je suis pas sûr qu'ils ont les jambes en coton. Je pense qu'ils ne connaissent pas, à moins que ce soit en haut d'une côte. Dites-nous quand même, Florent et Simon, qu'est-ce que vous êtes partis, qu'est-ce que vous partez chercher quand vous partez rouler?
Eh ben en fait, justement, je pense que dans l'album, on s'est un petit peu posé la question parce que il y a quelque chose de... Ben, c'est justement, quand on a commencé à raconter nos histoires, en fait, c'était aussi parce que nos amis, en fait, quand ils entendaient le récit de dire « oui, ils sont partis, ils ont fait en 5 jours 600 bornes ou plus, qu'ils se sont fait mal, qu'ils ont eu faim, qu'ils ont eu soif, voilà, qu'ils reviennent avec des crevatures. » Voilà, ils nous voient revenir avec le visage rougeau, le nez qui pèle. Ouais, on est dans des états déplorables. Et en fait, justement, qu'est-ce qu'on est venu... pourquoi on se met dans ces états-là?
Et ben c'est la question.
Voilà. Et ben, la bande dessinée est presque, je dirais, la réponse. Enfin, dans notre cas, on a chacun, je pense, quelque chose qu'on vient chercher. C'est aussi, on a extrapolé un petit peu nos personnages et nos personnalités dans la bande dessinée, avec voilà un personnage, ben, comme on l'a un petit peu évoqué, qui est le mien. Qui va être plus, je sais pas, un genre d'éclaireur qui a envie de défricher,
qui veut toujours plus aussi.
C'est ça, qui se laisse griser un peu par le chrono, parce que je pense, enfin, le personnage que je représente, voilà, dans la bande dessinée, c'est moi poussé un petit peu, et puis c'est aussi beaucoup de cyclistes qui, petit à petit, ben, finissent par rouler en se disant, oh, j'ai fait 100 km, est-ce que je pourrais pas en faire 120 dans la journée, puis 150, puis 200, puis...
Et puis heureusement, là, il y a Florent qui dit, non, c'est bon, on est bien là, on profite maintenant de l'instant, c'est ça? Il y a notamment une case où vous dites, mais moi, je suis bien là, Florent.
Exactement, ça a toujours été un peu ça, je suis toujours celui qui grogne et qui dit, à quand la prochaine boulangerie, mes réserves, entre nous, on a un petit truc comme ça, où on dit, moi, j'ai un peu ma jauge de survie, et quand elle est dans le rouge, Simon, il arrive à le voir sans que je lui dise maintenant.
Ouais, d'accord.
Et en général, ça nous arrive aussi d'emmener un peu de musique avec nous, et il sait qu'il faut qu'il me rebooste, qu'il m'envoie quand c'est pas des choses à manger, il faut qu'il m'envoie des bonnes ondes comme ça. Et je dirais que moi, pour moi, le vélo à la base. Alors après, les choses se sont un peu mélangées comme ça. Maintenant, quand Simon me propose des défis un peu plus sportifs, j'y prends goût. Mais à la base, c'est vrai que je voyais plus ça comme pour moi, un moyen de me changer aussi de mon rythme de dessinateur qui est beaucoup plus...
Avant la feuille blanche et les crayons.
Exactement.
Justement, puisqu'on parle de dessinateur, comment est-ce qu'on passe d'un strip et d'un compte Instagram avec des strips publiés régulièrement à une idée de BD avec un scénario? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites?
Donnons
envie à nos auditeurs, auditrices de faire des BD. Moi, je trouve que c'est super que vous ayez fait ça.
Bah, en fait, on va pas pouvoir raconter un peu toutes les péripéties, mais en gros, on a eu la chance de rencontrer les gens d'Argo qui nous ont repérés grâce à nos strips au départ, parce qu'on a gagné un petit prix à Angoulême à l'époque. Et suite à ça, en fait, on a engagé un dialogue avec notre éditrice qui s'appelle Pauline Mermet, qui nous a beaucoup accompagnés un peu, elle avait conscience qu'on était des jeunes auteurs et elle, c'est son métier, donc elle a su un peu nous aiguiller, nous challenger quand il fallait, nous dire voilà, là ça va pas, il vous faut plus de pages, il faut ajuster, recalibrer. Et comme ça, petit à petit avec elle, alors ça, il faut avoir conscience un peu du temps que ça prend. Nous, on a mis 2 ans et demi en tout, avec tous les aléas aussi personnels.
Deux ans et demi entre le moment où il y a la première discussion avec Dargo et le moment où on se retrouve là devant au micro.
À peu près. Et je dirais que c'est aussi stimulant qu'intimidant, on va dire, un livre, parce que c'est quand même, il faut gérer un récit comme une partition, et nous, comme on est très amateurs de BD, disons que, et que c'est Dargo, effectivement, qui est pas une petite maison, bah, on avait tendance à se comparer à des grands noms qui nous ont toujours fait rêver, et voilà, il fallait assurer, quoi.
Bah oui, vous êtes à côté de Gottlieb et à côté d'Agrippine, quand même, dans la collection d'Argo, c'est quand même intimidant, non ?
Ouais, plus que ça même. Et du coup, on s'est dit, c'est pas le moment de tomber du vélo, quoi. Il faut y aller maintenant.
Et alors, justement, comment vous avez travaillé sur cette BD ? C'est un travail d'équipe, des prises de relève ? Parce que vous, Florent, vous avez dessiné. Vous, Simon, vous avez plutôt fait le scénario. Mais j'imagine que. Alors, le trait, c'est probablement très Florent. Mais j'imagine que le scénario, c'est une discussion. Et qu'est-ce qu'on va chercher ? Qu'est-ce qu'on pousse ? Comment vous travaillez là-dessus ?
Alors en fait, déjà, puisque on se nourrit vraiment des expériences qu'on a eues tous les deux, donc c'est sûr que à partir du moment où c'est une autofiction autour de nos histoires, eh ben il y a forcément cet échange. Et depuis le début, depuis qu'on travaille sur les strips, enfin notre méthode, qui est vraiment comme c'est pas notre métier, qu'on n'a pas fait de formation, on a fait ce qui nous semblait naturel et ce qui fonctionnait pour nous. Et en fait, même l'éditrice nous a dit, faites comme ça, en fait. Il n'y a pas de méthode universelle. Le résultat, c'est tout ce qui importe. Et donc, on se met côte à côte. J'ai une courte avance avec une première idée, de script. Mais, en fait, Flo va me rattraper en faisant le storyboard. Pendant ce temps, j'avance un petit peu sur le reste, justement, pour avoir toujours une courte avance. Et une fois qu'il me présente le storyboard, ça va me faire germer des idées aussi. Je vais dire, mais ce dialogue, en fait, on pourrait le pousser. Et ça, en fait, c'est super intéressant ce que t'as fait là. Et ça enrichit. En fait, il y a vraiment un aller-retour. On n'est pas du tout chacun dans notre tour d'ivoire à attendre son tour. J'ai pas remis, 60 pages de script, sur le bureau de Flo en disant, voilà, à ton tour.
Finalement, c'est comme rouler à vélo à deux.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on se dit souvent. Et on aime bien, justement, même dans les sujets, dans la BD en elle-même, essayer de faire ce parallèle, parce que c'est vraiment ça qu'on ressent, quoi. Quand il parle de légère avance, c'est souvent le cas sur la route aussi. et on essaie de suivre comme ça et de se renvoyer la balle. Et dans le processus créatif, ça a été super important. Je pense que ça nous tenait à cœur d'ailleurs d'être géographiquement au même endroit. Donc je le rejoignais, parce que Simon vit maintenant entre la Lozère et la Haute-Loire. Donc je me faisais des sessions là-bas où on travaillait ensemble et on pouvait pas travailler autrement que comme ça. Et ensuite, après, le dessin, c'est un peu différent. Là, c'est plus une immersion totale.
Pareil, vous aussi, Simon, vous avez une formation de graphiste. Enfin, vous avez ce que vous disiez, vous avez fait des études d'art ensemble. Donc, vous avez, a priori, vous savez aussi dessiner. Ou en tout cas, vous avez un œil.
Je sais dessiner. Et d'ailleurs, pour répondre juste, c'est peut-être une digression, mais l'école d'art aujourd'hui, le graphisme, il n'y a plus besoin de savoir dessiner. Oui. En fait, il y a vraiment tous les profils. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je pense que moi, j'avais envie, je rêvais depuis tout petit d'être dessinateur de BD. Et je suis allé en école d'art pour ça. Et en fait, quand je me suis rendu compte que être graphiste, c'était pas forcément dessiner toute la journée, j'ai un petit peu lâché et je suis passé à autre chose. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les histoires. Oui. Et donc, c'est pour ça que je suis ravi que la bande dessinée nous ait rattrapé ou qu'on ait rattrapé la bande dessinée. Et voilà.
D'accord. Eh bien, écoutez, il est 14h25 bientôt. On va passer le relais à Abel Guggenheim, si vous voulez bien. Vous êtes toujours sur Rayon Libre, vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM. C'est le moment de Abel Guggenheim qui va nous raconter aujourd'hui que peut-être il se vole comparativement moins de vélos en 2023 qu'en 2018. Abel, c'est à toi de passer devant.
Bonjour, je vous parle aujourd'hui du vol de vélo. Sujet classique, marronnier comme on dit dans la presse lorsque l'on parle de vélo. Je ne dirai cependant pas les mêmes choses que ce que j'ai lu ou entendu ailleurs sur ce sujet. Un chiffre courait depuis des années, celui de 400 000 vols par an de vélo en France, répété et recopié de chronique en article. L'origine de cette information est incertaine, je pense la connaître, mais n'en étant pas sûr, je ne vous la donnerai pas. Je le tenais personnellement pour exagéré. Une étude récente donne un chiffre à peu près équivalent et est présentée comme une confirmation. Bizarrement, les mêmes qui s'empressent face à l'augmentation du nombre d'accidents à vélo de préciser que cette augmentation n'est que relative puisque le nombre de cyclistes a aussi augmenté, omettent de prendre ici la même précaution. La stabilité de ce chiffre est en réalité soit le signe que l'ancien chiffre de 400 000 était surévalué, soit, si on le tient rétrospectivement pour exact, que le risque de se faire voler son vélo a spectaculairement diminué. Mais cette conclusion va à l'encontre de la conviction générale que le vol de vélo est un fléau abominable. Je ne dis évidemment pas qu'il n'existe pas. J'ai moi-même connu cette émotion qui vous emplit lorsque vous retrouvez vide l'endroit où vous l'avez laissé, que vous bousculez votre mémoire immédiate pour mettre en doute que c'était bien là et pas ailleurs. Cette émotion puissante par rapport à ce qui, pour beaucoup de cyclistes, est bien plus que la simple disparition d'un objet inanimé servant à se déplacer et à se dépenser. Mais la question que je pose est, vole-t-on plus ou moins de motos, d'automobiles, d'instruments de musique, d'échelles, de nains de jardin, de fruits en devanture des épiceries, de téléphones portables? Risque-t-on plus ou moins d'être cambriolé ou d'être agressé que de voir disparaître son vélo? Le vélo est à ma connaissance le seul objet pour lequel la crainte du vol préexiste à l'achat. Je me souviens, il y a de nombreuses années, lorsque je tenais des permanences téléphoniques au local d'une association cycliste, que beaucoup d'appels commençaient par « j'ai l'intention de m'acheter un vélo, mais je crains de me le faire voler ». Il y a même des cyclistes qui en viennent à utiliser un vieux vélo tout pourré pour décourager le vol. Je me souviens avoir répondu ainsi à un tel message. Tu as raison, je fais d'ailleurs comme toi, je suis en ce moment assis sur un tabouret branlant devant mon ordinateur antédiluvien posé sur une table toute pourrie. Que faire alors par rapport à ce risque ? Prendre des précautions sérieuses contre le vol, acquérir les objets et les gestes pour s'en prémunir, mais ne pas s'en faire une montagne, et surtout résister à la floraison de dispositifs technologiques tous plus coûteux les uns que les autres, sans apporter plus que les procédés classiques et éprouvés. À lundi prochain, début du joli mois de mai, où vous ferez ce qui vous plaît.
Merci beaucoup Abel. Sans transition, Florent, Simon, très vite, est-ce que vous avez d'autres projets de ride et d'autres projets de bande dessinée ?
Alors oui, on a des
projets. Alors c'est Simon qui parle. Hein.
Oui, c'est Simon qui parle. Donc, on a vraiment adoré à la fois rouler, à la fois faire de la bande dessinée. On va continuer le vélo et la bande dessinée, pas forcément en même temps, peut-être, qui sait. Mais voilà, il y a des projets qui arrivent des deux côtés.
Et là, vous partez en tournée pour des signatures, des dédicaces, des choses comme ça. Où est-ce que on peut vous retrouver, peut-être dans Paris ou région parisienne, très rapidement. Vous avez une date à nous proposer ou pas?
Alors les prochaines dates à Paris, j'ai les lieux en tête. On sera à la librairie Tram dans le 5e.
Le 3 juin.
C'est ça. Et à Vincennes. À
le comptoir des mots aussi le 4 juin. Et à Vincennes le 30 juin.
Et bah, très bien. Et puis on mettra à jour la fiche de l'émission. Comme ça, on pourra tenir informés nos auditeurs, nos auditrices sur où vous retrouvez, et puis qu'ils achètent la ride juste avant, et puis vous ferez un beau dessin.
Ouais, bien sûr. Hein, avec plaisir.
Des beaux dessins, super.
Flo donne toujours le maximum.
Super. Sauf sur le vélo, j'ai l'impression. Enfin, si justement, c'est lui qui donne
si
le maximum.
Si on pousse un petit peu, si.
C'est lui qui donne le maximum. C'était donc Rayon Libre. Merci beaucoup à tous. Merci de votre écoute. Vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM. Auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. La semaine prochaine, nous recevrons Adrien Laplanche. Il est fondateur de Odos Guide, un créateur d'itinéraires à vélo. Messieurs, merci beaucoup encore pour votre présence au micro et restez sur 93.fm. Il est 14h29. Je vous dis à la semaine prochaine, restez sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains, celle de Cause Commune, l'heure d'Ainsi va la ville, un inédit. À la semaine prochaine.